Aujourd'hui, je m'attaque à un sujet un peu technique. Que ce soit dans un camp ou dans l'autre, d'un côté les Réunionnais indépendantistes, et de l'autre ceux qui sont profondément attachés à la France, certaines rengaines reviennent souvent. Côté patriote, on a droit à... Si la Réunion devenait indépendante, dans l'année on deviendrait Haïti. Côté indépendantiste, on a droit à... L'île Maurice aussi était une colonie, pourtant c'est un pays fonctionnel. Je vous propose qu'on aille au-delà des caricatures et qu'on creuse le sujet. Pour ceux qui regardent depuis l'Hexagone et qui ont un peu de mal à situer nos deux cobayes du jour, on va faire un point géo rapide. Direction le sud-ouest de l'océan Indien, dans l'archipel des Mascareignes. La Réunion et l'île Maurice sont deux îles sœurs, séparées par seulement 170 km de mer. En avion, c'est un saut de puce de 35 minutes. Pourtant, malgré cette proximité, elles ne se ressemblent pas tant que ça. Niveau superficie, la Réunion est la plus grande des deux avec un peu plus de 2500 km². Maurice, quant à elle, fait environ 2000 km². Pour vous donner une idée, la Réunion fait grosso modo la taille d'un département comme les Yvelines ou le Luxembourg. Niveau population, c'est l'inverse. Maurice est beaucoup plus peuplé avec 1,25 million d'habitants, contre un peu plus de 880 000 chez nous à la Réunion. Enfin, le paysage est très différent. La Réunion est une île jeune, très escarpée, avec des montagnes qui culminent à plus de 3000 mètres et un volcan hyperactif. C'est magnifique, mais l'agriculture et les infrastructures y sont complexes. Maurice est une île beaucoup plus vieille géologiquement. Elle est relativement plate, entourée d'un lagon turquoise et de plages de sable blanc rectiligne. Idéale pour cultiver la canne à sucre à grande échelle et construire des complexes hôteliers les pieds dans l'eau. Maintenant que le décor est posé, revenons à notre question. Comment deux îles si proches ont-elles pu prendre des trajectoires aussi opposées ? Pour comprendre pourquoi Maurice a réussi, il faut d'abord analyser son histoire. Contrairement à Madagascar ou à d'autres grands pays colonisés, Maurice et la Réunion n'avaient aucune population autochtone avant l'arrivée des Européens, les deux îles étant totalement désertes. Mais la grande différence, c'est que Maurice a été un vrai terrain de jeu colonial et a changé de main plusieurs fois. Elle a été découverte par les Portugais, colonisée par les Hollandais qui l'ont baptisée Mauritius et qui ont exterminé le dodo, puis elle est devenue française sous le nom d'île de France, avant d'être récupérée par les Britanniques en 1810. Lorsque les Britanniques décident de s'en aller en 1968, les experts prédisent une catastrophe humanitaire.
C'est vraiment la caca, la cata, c'est la... catastrophe. C'est la catastrophe.
Maurice n'a que de la canne à sucre et aucune aide extérieure. Le Royaume-Uni n'a jamais eu l'intention de leur offrir l'égalité sociale ou citoyenne. Pour Maurice, l'indépendance n'était pas un choix idéologique, c'était une question de survie. Et comment ont-ils fait pour s'en sortir ? Eh ben c'est pas de la magie, c'est un coup de maître stratégique en trois étapes.
C'est le mimi, c'est le rara, c'est le... miracle. C'est le miracle, il faut le dire, merci.
Première étape, le pacte des capitaux. Contrairement à d'autres pays qui ont chassé les anciens colons à l'indépendance, le gouvernement mauricien a fait un pacte pragmatique avec l'oligarchie sucrière coloniale. L'État a garanti leurs terres et leurs usines, à condition qu'ils réinvestissent leur argent sur l'île. Les capitaux ne sont pas partis. Deuxième étape, ils ont exploité les failles du commerce mondial. Dans les années 70 et 80, quand l'Occident a bloqué le textile asiatique avec des quotas, Maurice a négocié des passe-droits. Des investisseurs de Hong Kong sont venus en masse installer leurs usines dans la zone franche mauricienne. Enfin, troisième étape, Maurice a su pivoter à chaque décennie. Du sucre au textile, puis au tourisme de luxe, et enfin à la finance offshore avec la Cyber City d'ébène. C'est un modèle brillant mais qui repose sur un libéralisme agressif. Une fiscalité très basse, une flexibilité totale du travail et des salaires maintenus bas pour rester compétitifs au niveau mondial. À La Réunion, on a fait le choix inverse. En 1946, sous l'impulsion de Raymond Vergès et Léon de Lepervenche, l'île a choisi la départementalisation. On a demandé l'intégration complète, l'égalité des droits, le SMIC, la sécurité sociale et les hôpitaux. On a lié notre destin à la France et plus tard à l'Europe. Cela a créé chez nous un phénomène économique très précis que les chercheurs appellent le syndrome hollandais. Historiquement, cela touche des pays qui découvrent du pétrole. L'argent coule à flot, les salaires explosent et plus personne ne produit rien localement parce que ça coûte trop cher. On préfère tout importer. À La Réunion, notre pétrole ce sont les transferts publics. Les milliards d'euros injectés chaque année par l'État et l'Europe pour payer les fonctionnaires avec la surrémunération, financer les prestations sociales et construire les infrastructures. Le problème, c'est que cet argent ne sert pas à créer des industries exportatrices, il sert à consommer. Notre économie est devenue une économie de comptoir. L'argent public rentre, on l'utilise pour acheter des biens importés et il repart aussitôt vers l'extérieur. À cause de cela, notre coût de la vie et nos salaires sont calqués sur l'Europe, ce qui nous empêche d'exporter dans notre propre région. Un travailleur réunionnais coûte 4 à 5 fois plus cher qu'un travailleur mauricien ou malgache. Alors imaginons un instant le scénario fiction. Du jour au lendemain, la Réunion devient indépendante dans l'état actuel des structures. Que se passe-t-il concrètement en quelques mois? Dès le premier mois, c'est le grand vide. La France coupe les dotations financières qui représentent près de 40% du PIB de l'île. Plus de subventions pour les hôpitaux, plus de CAF, plus de RSA. Le CHU de la Réunion se retrouve en cessation de paiement en quelques semaines seulement. Au deuxième mois, c'est la fuite des cerveaux. Nos médecins, nos ingénieurs et nos professeurs possèdent un passeport européen. Face à l'effondrement des services publics, une grande partie se barre de la Réunion. Au troisième mois, on doit créer notre monnaie locale, disons le poussin créole. Pour espérer vendre le moindre produit à nos voisins, on est obligé de dévaluer massivement cette monnaie. Quand Maurice est devenue indépendante, elle a dévalué sa roupie de près de 50% dans les années 70. Ça a fait mal au portefeuille des Mauriciens, mais ça a permis à leurs usines de textile de vendre pas cher à l'international. Si la Réunion devient indépendante, on fait quoi avec l'euro? Si on le garde, comme on n'exporte rien, on va vite se retrouver à court de billets. Si on crée notre propre monnaie, on sera obligé, comme je viens de l'évoquer, de la dévaluer à fond pour espérer être compétitif face à nos voisins. Sauf que Maurice avait des usines à faire tourner avec sa monnaie faible. Nous, on n'a rien à exporter. Une monnaie réunionnaise faible, ça veut juste dire que votre caddie chez Jumbo ou Carrefour va coûter 3 fois plus cher le mois d'après. Et au quatrième mois, c'est le coup de grâce de la vie chère. Comme on importe l'immense majorité de notre nourriture, de notre carburant et de nos médicaments avec une monnaie locale qui vaut plus rien, les prix dans les supermarchés font de l'hyperinflation. Mais au-delà des chiffres, du RSA et de l'économie, il y a un autre aspect qu'on oublie tout le temps dans ce débat, et c'est peut-être le plus important, c'est l'aspect affectif. Dire que la Réunion reste française uniquement par intérêt financier, c'est faux et c'est insultant. Notre attachement à la France n'est pas qu'une histoire de dépendance économique, c'est une histoire d'ADN et de combat. Regardez Maurice. Pourquoi n'ont-ils eu aucun problème à couper le cordon avec Londres en 1968? Parce que pour eux, les Britanniques étaient des gestionnaires lointains qui dirigeaient l'île comme une entreprise, sans jamais chercher à intégrer les Mauriciens comme des citoyens. De plus, après l'abolition de l'esclavage, les Anglais ont fait venir près de 450 000 engagés d'Inde. Cette population devenue majoritaire n'avait aucun lien du sang ou affectif avec la couronne britannique. Rompre avec le Royaume-Uni pour Maurice, c'était juste remercier un patron. Mais à La Réunion, notre histoire s'est faite d'un bloc et de manière fusionnelle avec la France depuis le premier jour. Et surtout, nos ancêtres se sont battus pour arracher l'égalité au sein de la République. L'abolition de l'esclavage en 1848, c'est la République.
La République !
Et moi ?
La départementalisation en 1946 pour sortir de la misère coloniale, c'est le combat de Réunionnais qui ont exigé la même dignité et les mêmes droits que n'importe quel citoyen de l'Hexagone. La France fait partie de notre culture, de nos valeurs et de nos institutions. Alors oui, on râle contre Paris, on se bat légitimement contre la vie chère, on défend notre identité créole avec beaucoup de fierté, mais on sait que notre place est dans la République. On ne jette pas des siècles d'histoire commune sur un coup de tête. Alors, est-ce que Maurice en est bien sorti? Oui, admirablement bien, et tout le mérite revient au peuple mauricien qui a cravaché dur. Mais vouloir copier le succès économique de Maurice en 2026, tout en exigeant de garder le confort social de la Réunion, est une impossibilité mathématique. Pour que la Réunion indépendante devienne compétitive comme Maurice, il faudrait accepter les règles du jeu de nos voisins, accepter de diviser le salaire minimum par 3 ou 4, puisque le salaire minimum à Maurice tourne autour de 350-400 €.
Combien ?
Et réduire drastiquement les aides sociales et transformer notre île en paradis fiscal. Est-ce que les Réunionnais sont prêts à voter pour ça ? Évidemment que non. Maurice a construit son modèle sur mesure par nécessité. La Réunion a construit son modèle sur l'intégration et la redistribution. On peut critiquer le système actuel, demander plus d'autonomie locale sur la production ou le commerce régional, et c'est un débat sain. Mais couper la perfusion du jour au lendemain en pensant que le modèle mauricien va apparaître par magie, c'est pas de la politique, c'est du sabotage. Au final, si l'on reprend les rengaines que j'ai évoquées en début de vidéo, si l'on prend en compte tous ces facteurs, historiques, économiques et sociaux, et toute leur complexité, il est fort à parier qu'une Réunion indépendante ait plus de chances de finir comme Haïti que comme Maurice. Je sais que le mot Haïti fait peur et qu'il sonne comme une caricature de droite, mais la réalité économique est une science froide. Si vous coupez les transferts publics d'un coup, que votre monnaie s'effondre, que vos cadres s'enfuient et que vous n'avez aucune industrie pour exporter, vous créez pas de la richesse, vous créez de la misère. Et la misère dans une île ultra dépendante des autres pour se nourrir, ça mène à l'instabilité politique, aux crises humanitaires et au chaos social. C'est exactement la trajectoire d'Haïti qui était pourtant la colonie la plus riche des Antilles avant que son histoire ne bascule. Maurice n'est pas un modèle magique exportable par copier-coller. C'est une exception historique et géopolitique construite dans la douleur et le sacrifice. Alors oui, notre système actuel à La Réunion est loin d'être parfait. La vie chère nous étrangle, le chômage est trop haut et la dépendance vis-à-vis de Paris est parfois pesante. On a le droit et même le devoir de se battre pour plus d'autonomie décisionnelle, pour produire plus localement et pour mieux commercer avec nos voisins de l'océan Indien. Mais il faut savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Il ne faut pas confondre le désir d'améliorer notre quotidien avec le fantasme de tout détruire. L'indépendance de La Réunion dans le monde ultra-violent d'aujourd'hui, ce serait pas une libération, ce serait un suicide collectif. On arrive au nœud le plus sensible du problème. Pour démonter définitivement le cliché du miracle mauricien, il faut regarder la réalité sociale de l'île Maurice en 2026. Oui, un réunionnais moyen, même au chômage ou au RSA, dispose d'un pouvoir d'achat matériel et d'un filet de sécurité sociale nettement supérieur à ceux d'un mauricien moyen qui travaille dur. À Maurice, l'économie globale va bien, le PIB augmente, mais la richesse s'est très mal redistribuée. C'est une économie à deux vitesses. Après de récentes réorganisations et ajustements face à l'inflation, le salaire minimum de base à Maurice a été rehaussé pour atteindre environ 17 500 roupies, ce qui équivaut à environ 350 euros par mois. Un prof, un infirmier ou un policier mauricien gagnent entre 600 et 800 euros par mois. À La Réunion, le SMIC net est à plus de 1400 euros. Même le RSA pour une personne seule est supérieur au salaire de nombreux travailleurs mauriciens à plein temps.
C'est diablerie, c'est diablerie !
Depuis la crise du Covid et les tensions mondiales, Maurice subit une hausse du coût de la vie massive. La roupie mauricienne a perdu beaucoup de sa valeur. Résultat, remplir son caddie au supermarché à Port-Louis ou Curepipe coûte aujourd'hui presque aussi cher qu'à La Réunion pour les produits de marque ou importés. Imagine devoir payer des courses au prix presque réunionnais avec un salaire de 400 euros. Pour le mauricien moyen, c'est de la survie au quotidien. À Maurice, la pauvreté ne se voit pas depuis les hôtels de Grand Bay ou du Morne, mais elle est bien réelle et structurelle. À Maurice, si tu perds ton travail, il n'y a pas de France Travail ni de chômage payé pendant des mois. Si tu travailles pas, tu manges pas, à moins de basculer sur la solidarité familiale. Il existe une aide sociale pour les familles en extrême pauvreté, mais elle est minime, quelques dizaines d'euros, et soumise à des critères ultra stricts. Il existe de véritables bidonvilles ou cités très pauvres à Maurice, comme à Cassis, Rochebois ou certaines zones de Rivière-Noire. Le logement social y est précaire et l'accès à l'eau potable courante 24h sur 24 n'est pas garanti dans toutes les régions de l'île. Les coupures d'eau quotidiennes sont la norme pour les locaux qui doivent avoir des citernes sur le toit. On dit souvent que Maurice offre la santé et l'éducation gratuites. C'est vrai sur le papier, mais dans la réalité, les hôpitaux publics mauriciens sont gratuits mais totalement saturés, avec des listes d'attente interminables et un manque de matériel de pointe. Si tu as une maladie grave, le système public montre vite ses limites. La classe moyenne et supérieure mauricienne se tourne obligatoirement vers les cliniques privées qui coûtent une fortune. Un réunionnais, grâce à la sécurité sociale et au CHU de Belle-Pierre ou de Saint-Pierre, a accès gratuitement à des soins de niveau européen parmi les meilleurs du monde. L'école publique est gratuite, mais le système est ultra compétitif. Pour que leurs enfants réussissent, presque toutes les familles mauriciennes de la classe moyenne s'endettent pour payer des leçons particulières. L'éducation gratuite a un coût caché énorme. Il faut regarder la réalité en face, loin des clichés de la carte postale. Quand on dit que Maurice s'en sort bien, on regarde le PIB du pays, mais on ne regarde pas la vie des gens. Est-ce qu'on vit mieux à La Réunion sous perfusion qu'à Maurice en travaillant ? La réponse est oui, et de loin. À Maurice, le salaire minimum, comme je l'évoquais plus tôt, tourne autour de 350 euros par mois. À côté de ça, à cause de la dévaluation de leur monnaie, les prix dans les supermarchés ont explosé. Vivre à Maurice aujourd'hui avec 400 euros, c'est une lutte de chaque instant. Et si tu perds ton boulot, pas de chômage, pas de RSA, tu te démerdes. Si tu es gravement malade, l'hôpital public est gratuit, oui, mais il est saturé. Si tu veux être bien soigné, tu dois payer une clinique privée de ta poche. À La Réunion, on passe notre temps à râler, et on a souvent de bonnes raisons de le faire, mais on oublie la chance astronomique qu'on a d'avoir un modèle social européen. Notre système de santé, nos écoles, nos aides au logement, notre SMIC à 1400 euros, tout cela n'existe tout simplement pas chez nos voisins. Le modèle mauricien crée de la richesse pour le pays, mais il produit aussi une pauvreté invisible, des inégalités massives, et une classe populaire qui tire le diable par la queue. Et puis, il y a un autre angle où mes collègues réunionnais font preuve d'une énorme hypocrisie. pour avoir l'économie de Maurice, il faut son industrie numéro 1, le tourisme de masse. Mais est-ce qu'on est vraiment prêt à en payer le prix écologique et social ? Je connais assez bien Maurice, y étant allé 5 ou 6 fois. Et dès qu'on sort du cadre aseptisé des grands hôtels de luxe, on réalise à quel point l'île est saturée et polluée. Tout miser sur le tourisme, ça veut dire une chose, sacrifier son île. Ça veut dire bétonner les plus beaux coins du littoral et des montagnes pour construire des structures d'accueil. À Maurice, officiellement, les plages sont publiques. Les hôtels n'ont pas le droit de les privatiser. Mais dans les faits, je n'ai jamais vu de famille mauricienne pique-niquer et s'amuser sur le sable devant les grands hôtels de luxe. Les hôtels ont trouvé le moyen, par des barrières psychologiques, des agents de sécurité et en bloquant les accès par la terre, de chasser poliment mais fermement la population locale. Les Mauriciens se retrouvent entassés sur quelques plages publiques restantes, souvent surpolluées et beaucoup moins prestigieuses. À La Réunion, notre littoral est encore à nous. On peut aller à Boucan, à l'Ermitage ou à Grand-Anse, poser notre nappe sous les files à eau, faire notre carry à côté d'un hôtel et personne ne viendra nous regarder de travers. Le lagon appartient encore aux Réunionnais. Alors posez-vous la question, est-ce que vous êtes prêt à accepter que nos plus belles plages soient confisquées de fait pour les touristes ? Est-ce que vous êtes prêt à voir Saint-Gilles ou le Sud transformé en barre de béton continu, où la mer devient invisible depuis la route ? C'est le prix à payer pour la croissance à la mauricienne. Et connaissant le tempérament et l'amour des Réunionnais pour leur terre, je doute fort qu'on accepte de troquer notre tranquillité et notre liberté contre des complexes all-inclusive. Pour conclure cette vidéo sur une note plus légère, je vous propose quelques faits insolites sur l'île Maurice. Au large du Mont-de-Brabant, au sud-ouest de l'île, il y a un phénomène visuel mondialement connu qui rend fou Internet. Quand on regarde depuis un hélicoptère ou sur Google Earth, on a l'impression qu'il y a une immense cascade sous-marine qui s'enfonce dans les abysses de l'océan. En réalité, c'est une totale illusion d'optique. Ce sont simplement les courants marins qui déplacent les sédiments de sable le long du plateau corallien vers les fonds marins. C'est une curiosité géologique unique. À Chamarelle, il y a des dunes de terre volcanique qui affichent des nuances de bleu, de vert, de rouge et de jaune. Le truc le plus fou, si tu prends une poignée de cette terre, que tu mélanges toutes les couleurs dans un bocal et que tu laisses reposer, les grains de sable se séparent tout seuls pour reformer les strates de couleurs d'origine à cause de leur composition chimique en oxyde de fer et d'aluminium. Maurice possède le deuxième plus vieux club de course hippique au monde. Le Champ de Mars situé à Port-Louis a été inauguré en 1812. C'est le plus vieux hippodrome de tout l'hémisphère sud et le deuxième plus ancien au monde encore en activité. Les courses de chevaux sont une véritable religion à Maurice. Le week-end, l'ambiance y est électrique et totalement folle. L'anglais est la langue officielle de facto, mais personne ne la parle au quotidien. C'est le grand paradoxe de l'administration mauricienne. La constitution ne mentionne aucune langue officielle, mais l'anglais est utilisé au parlement, dans les tribunaux et dans l'administration. Pourtant, dans la vraie vie, moins de 1% de la population mauricienne parle anglais à la maison. Tout le monde parle le créole mauricien ou le français.
Curieusement, à l'Assemblée nationale, le créole est toujours interdit. Seul l'anglais, langue administrative, et le français, langue des médias, y sont autorisés.
Laisse-moi commencer par dire qu'il m'accueillait positivement s'imposer la loi là.
Récemment, une députée a tenté de s'exprimer en créole. Elle a été aussitôt interrompue par la présidente de la Chambre.
Qui nécessaire.
Je ne peux pas vous laisser parler, dire votre discours en entier en créole pour le moment.
L'État mauricien gère un territoire composé d'une centaine d'îles éparpillées dans son lagon et dans l'océan. En dehors de Maurice elle-même, deux autres îles sont habitées. L'île Rodrigue à Galega, et une dizaine d'îles aménagées pour l'accueil du public, comme l'île au Bénitier et l'île au Cerf. La Réunion, bon bah pas de bol, on n'a qu'une seule île, l'île de la Réunion, c'est tout. Enfin, pas tout à fait. On a bien un îlot rocheux en face de la commune du même nom, la petite île, mais ce dernier est inaccessible. Dernière anecdote, l'ancien président Jacques Chirac avait une relation particulière avec l'île Maurice. Il en était amoureux. L'avion présidentiel se posait d'abord à la Réunion, Jacques Chirac y passait 24 à 48 heures. Il descendait de l'avion, serrait des mains sur les marchés, faisait l'éloge des Réunionnais devant les caméras et prenait des bains de foule médiatisés. Une fois les caméras de France Télévisions reparties, Chirac et Bernadette reprenaient discrètement l'avion pour rejoindre l'île Maurice. Loin des regards, il allait s'installer dans sa suite princière au Royal Palm pour décompresser, manger des fruits de mer chez Amigo et profiter du lagon privé et ultra sécurisé de l'hôtel. À force de se faire épingler par les journaux, notamment Paris Match qui avait fini par dévoiler ses vacances mauriciennes de l'an 2000, son passage à La Réunion n'étant qu'un prétexte, Chirac a dû faire machine arrière. En août 2004, en pleine crise politique en métropole, il était obligé de passer ses vacances d'été à La Réunion pour être politiquement correct. Il a logé à l'hôtel Saint-Alexis dans l'Ouest. Les journalistes de l'époque s'étaient ouvertement moqués de la scène. On voyait Jacques et Bernadette Chirac sur des transats, surveillés par des gardes du corps en short, mais prenant le soleil, complètement habillés. J'ai malheureusement pas pu retrouver l'image précise, cette dernière étant privée et payante.